Joël chapitre 2 versets 28 et 29, nous lisons: Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Encore une fois, frères et sœurs, mes salutations fraternelles. J'ai intitulé notre méditation pour aujourd'hui, comme vous avez probablement déjà pu le voir, La place du don prophétique dans l'Église évangélique. Donc, je vais expliquer ce titre, qui n'est d'ailleurs pas en soi très dur à comprendre, mais tout de même, je vais toucher quelques mots dessus. Donc, frères et sœurs, comme nous avons vu sabbat passé, lors de notre méditation précédente, la raison pour laquelle nous avons besoin des prophètes, et donc du don de prophétie, et en quoi ce besoin était bien clairement exprimé vis-à-vis de la dispensation mosaïque, c'est-à-dire pendant la période de l'Ancien Testament, ou de ce qu'on appelle, communément parlant, l'Ancien Testament à travers les récits et la distribution des livres dans la Bible. Donc, ayant vu cela, la raison pour laquelle nous avons besoin de prophètes et le rôle crucial que les prophètes ont joué par le passé, à la fois dans l'éducation, dans l'exhortation, dans la correction et dans on pourrait le dire, la sauvegarde du peuple de Dieu, hein, à la lumière des versets qu'on avait vus, je suis en train de faire un bref survol. Eh bien, ayant déjà vu cela, ce que l'on veut aujourd'hui, c'est nous tourner vers l'ère chrétienne. L'ère, c'est-à-dire l'époque chrétienne. Et pour savoir si le don de prophétie y est encore applicable. Et donc, la question à laquelle on veut pouvoir répondre à travers cette étude, c'est la suivante. Le don prophétique a-t-il encore sa place dans l'Église évangélique? Et deuxième volet, et si oui, laquelle? C'est-à-dire si le don prophétique a bel et bien sa place dans l'Église évangélique, c'est-à-dire l'Église de Dieu à partir de la résurrection de Jésus et son départ pour le ciel, alors quelle est la place que ce don de prophétie a dans l'Église? Donc, ce sont les questions auxquelles j'aimerais que nous nous efforcions de répondre avec très peu d'autres ressources que la parole de Dieu elle-même. Donc, ce sera, à proprement parler, une étude biblique. Donc, ce sera moins un sermon sermonnant que ce sera une étude. Mais je pense que nous en avons besoin afin qu'en tant qu'adventistes du septième jour ou d'autres confessions religieuses qui peut-être assistent à ce message, afin que nous puissions obtenir une compréhension solide des choses que soit nous ne croyons pas encore, soit nous croyons sans comprendre. Parce que c'est une chose qui arrive, c'est une chose qui existe, c'est une chose à laquelle j'ai souvent assisté, à savoir, l'exemple typique, c'est d'adventistes qui entendent ou même lisent l'esprit de prophétie, mais qui ne croient pas en l'esprit de prophétie, ou qui ne comprennent pas quelles sont les réelles raisons pour lesquelles ils devraient y croire. Et donc, l'objectif, ou du moins un des objectifs de cette méditation, c'est de pouvoir former des convictions bibliques sur la question, et plus encore, des convictions solides. C'est-à-dire des convictions qui peuvent nous servir, individuellement parlant, de sécurité. Donc sans plus tarder, j'aimerais que nous commencions notre étude par le passage d'Hébreux chapitre 1. Hébreux, premier chapitre, où nous voyons très bien, à travers la parole de Dieu, une espèce, ou je dois dire l'expression d'une espèce de transition vis-à-vis du moyen par lequel Dieu s'adresse à son peuple. Et on pourrait, si nous n'en avions qu'une compréhension très étroite et limitée de ce passage, être porté à conclure que, donc, comme beaucoup de chrétiens, notamment évangéliques et baptistes de nos jours, le croient, à savoir que le don de prophétie, n'a plus sa place dans l'Église chrétienne. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous lisions le passage d'Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Il est écrit: Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très haut. Qu'est-ce que c'est? Dieu, qui nous a autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces, je cite, derniers temps par son Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, comme c'est marqué en anglais. Il n'en a pas fait qu'un seul. Nous ne sommes que un parmi tant d'autres, mais c'est un détail. Nous lisons ici que Dieu a parlé par le passé à son peuple. Il dit « nous », il s'adresse, Paul, vraisemblablement c'est l'apôtre Paul qui parle, s'adresse à des Hébreux. Lui, Hébreu né d'Hébreu, s'adresse à des Hébreux, donc il dit « nous hein, ». Nous, Hébreux, nos pères sont les Hébreux, les Juifs d'antan, l'ancien Israël. Et il dit « Dieu nous a parlé », ou je devrais dire « a parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes. » Donc à juste titre, il peut utiliser ce langage, vous voyez. Par les prophètes, il a parlé à l'ancien Israël. Mais, dit-il, il nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Et donc, ce que j'aimerais poser comme question, c'est comment Dieu nous a-t-il parlé en ces derniers temps par son Fils? Hein? Nous voulons savoir. Nous voulons savoir, mais pas en donnant nous-mêmes les réponses. Non, non, non. En laissant Dieu donner la réponse d'une manière cohérente, logique, dans laquelle vous n'avez pas besoin d'ajouter ou de retrancher à la parole. Hein? Le monde évangélique aujourd'hui forme des conclusions auxquelles ils ne parviennent, celles qui sont fausses, qu'en ajoutant ou en retranchant à la parole, soit en retranchant, soit en ajoutant leur propre conclusion. C'est ce que nous voulons éviter de faire et j'aimerais que vous puissiez voir de manière solide que c'est précisément ce que nous n'allons pas faire. Et nous allons faire quelque chose d'autre. Et donc pour cette raison, afin que vous puissiez le voir et le discerner et le conclure vous-même, j'aimerais que vous soyez attentifs. Donc comment Dieu a-t-il parlé en ces derniers temps par son Fils? Et afin de pouvoir répondre à cela, comment Jésus avait-il dit à ses disciples que lui resterait en communication avec eux? Je vous redirige vers les paroles de Jean chapitre 14. Nous voulons savoir comment Dieu a parlé en ces derniers temps par son Fils. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 16. Verset 16 tout d'abord, et ensuite nous passerons à la deuxième partie de cette déclaration de Jésus au sujet du Saint-Esprit. Je lis verset 16. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. Notez bien, il dit un autre, c'est-à-dire que le premier c'était lui. Hein? Le langage est clair. Donc, il dit, je vais prier le Père qui va vous envoyer, excusez-moi, un autre consolateur qui demeurera pour demeurer éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai, verset 18, je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Et donc, je vais faire très brièvement l'explication de cette fin du verset 17, à savoir que le Saint-Esprit demeurait avec les disciples parce que Jésus avait en lui le Saint-Esprit et le Saint-Esprit était avec les disciples par le moyen de Jésus. Mais il dit que plus tard, lorsque moi je m'en irai, hein, parce qu'il dit je prierai le Père, parce que je vais m'en aller, il le disait à un autre endroit, nous le verrons au chapitre 15. Donc, je vais prier le Père. Il dit, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Comment? Parce que l'Esprit de vérité, qui jusqu'alors n'était qu'avec vous, sera en vous. Et donc, il dit, à travers l'Esprit de vérité, je vais venir à vous. Parce qu'il sera en vous. Vous voyez? Et verset 25, nous lisons, je vous dis ces choses tandis que je demeure avec vous. Hein? Il demeure avec eux. Donc, regardez le langage ici. L'Esprit de vérité demeurait avec eux parce que Jésus est demeuré avec eux. Donc, ils avaient le Saint-Esprit par proximité, par proxy, ils disent en anglais. Donc, pas parce qu'ils l'avaient eux-mêmes, mais parce que le Saint-Esprit était en Jésus et donc ils profitaient, bénéficiaient du déversement du Saint-Esprit de par Jésus. Mais verset 25, Jésus disait, je vous dis ces choses tandis que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Donc, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, serait envoyé par le Père. Et que ferait-il? Il leur enseignerait toutes choses et leur remettrait en mémoire toutes les choses que Jésus a dites. Donc, on voit que le Saint-Esprit, maintenant, continuerait de parler au nom de Jésus, n'est-ce pas? Et nous continuons dans Jean chapitre 15, verset 26. Lorsque sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Hein? Et vous aussi vous rendrez témoignage, etc. Donc, je vous enverrai lorsque le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Le Saint-Esprit, le Consolateur, rendra témoignage de moi. Maintenant, Jean chapitre 16, verset 7, nous lisons, toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, disait Jésus à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et que fera-t-il? Que fera-t-il? Et réfléchissez à notre première question, à savoir comment Dieu a-t-il parlé en ces derniers temps par son Fils? À savoir que c'était les paroles de l'apôtre Paul qui lui-même avait fait beaucoup d'expériences dans l'inspiration du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que il a couché sur le papier tous ses livres, toutes ses épîtres qui constituent aujourd'hui le canon biblique. Notez bien ici. Gardez toutes ces choses à l'esprit. Jean chapitre 16, verset 7, nous avons lu, je reprends, et si je m'en vais, je vous l'enverrai, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Dites-moi, est-ce que le Père est en train de parler ici? Et comment parle-t-il? Vous me direz, c'est pas par son fils, parce que c'est par l'Esprit. Oui, mais l'Esprit, nous lisons qu'il rendra témoignage de moi, disait Jésus. Donc, est-ce que le Saint-Esprit est ici en train de parler de son propre ressort? Continuons. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit point en moi, disait Jésus. De justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Hein, Jésus était l'incarnation de la justice, n'est-ce pas? Et nous allons à lui pour obtenir la justice de Dieu. Verset 11, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Verset 12, j'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même ou de lui-même, comme c'est marqué en anglais, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Récapitulons ici. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, rendrait témoignage de Jésus, n'est-ce pas? Nous avons lu dans Jean chapitre 15, verset 26. Et dirait tout ce qu'il l'aura entendu, n'est-ce pas? Nous avons lu dans Jean chapitre 16, verset 13. Il ne parlera point par ou de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et donc, vous pouvez voir ici que toutes les choses, hein, notez bien, toutes les choses que Dieu devait parler par son Fils ne furent pas toutes dites lorsque Jésus était sur la terre et par la bouche physique et littérale de Jésus. Notez bien. Toutes les choses que Dieu devait parler par son Fils, conformément aux paroles de Hébreux chapitre 1, verset 1, ne furent pas toutes dites lorsque Jésus était sur la terre. Car Jésus disait lui-même au verset 12 de Jean chapitre 16, j'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Autrement dit, tout n'avait pas été dit. Ou je devrais, pour employer les mêmes mots, tout n'avait pas été parlé. Dieu n'avait pas encore tout parlé par son Fils. À savoir, le Saint-Esprit devait poursuivre cette œuvre des communications de Dieu par son Fils. Hein? Dieu nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Comment? Pas que lorsque Jésus était sur la terre. Parce que nous lisons au sujet du Saint-Esprit, qui toutefois, Jésus précisait qu'il ne parlerait point de lui-même, que lorsqu'il serait venu, il convaincrait le monde de péché, de justice et de jugement. Donc il dirait des choses que Jésus n'avait pas encore dites sur la terre, précisément parce que Jésus avait dit, j'ai encore plusieurs choses à vous dire que je ne vous ai pas encore dites parce que vous n'êtes pas prêts. Vous voyez? Donc est-ce que le Fils continuerait de parler au nom du Père par le moyen du Saint-Esprit? Précisément. Parce que Jésus disait dans Jean chapitre 14, j'attire votre attention vers ces paroles, disait, je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Il n'a pas dit juste le Saint-Esprit vient à vous. Il n'a pas que dit cela. Il a dit à travers le Saint-Esprit, c'est moi qui viens à vous. Et non seulement ce serait lui qui vient à nous, mais il nous parlerait par l'entremise de l'Esprit. Parce que nous lisons que l'Esprit ne parlerait pas de lui-même ou par lui-même, mais dirait tout ce qu'il aurait entendu. Pas juste ce qu'il aurait entendu lorsque Jésus était sur la terre, mais ce qu'il entendrait de Jésus lorsque Jésus serait dans le ciel. Notez bien ici. Dieu nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Poursuivons. Et donc, pour poursuivre, nous voulons voir ici, concernant la venue et l'œuvre immédiate du Saint-Esprit, nous voulons voir à travers le passage de Luc chapitre 24 quelque chose de particulièrement intéressant et important dans le langage qui est employé pour parler d'une annonce préalable de la venue de l'Esprit. Notez bien ici, Luc chapitre 24, versets 48 et 49. Jésus ici, c'était Jésus qui s'adressait aux disciples, si je ne m'abuse. Juste pour le contexte, voilà, verset 45, Jésus parlait à ses disciples, voilà, au verset 33, en se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, qui disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. À leur tour, ils racontèrent ce qui est arrivé en chemin. Verset 36, comme ils tenaient ces discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc, vous voyez, Jésus s'est présenté à tous ces disciples-là, alors qu'ils étaient réunis. Et verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures, et il leur parlait, il leur dit, ainsi est-il écrit, ainsi fallait-il que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât des morts le troisième jour, et qu'on prêchât en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'était le contexte. Jésus leur disait tout cela. Il leur disait, toutes ces choses qui vous sont arrivées, c'était les choses qu'il fallait, qui devaient arriver, afin que ces choses qui ont été écrites puissent trouver leur accomplissement. Et notez bien ici le langage. Verset 48, toujours dans Luc 24. Or, vous êtes les témoins de ces choses, et voici, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis pour vous. Demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. Hein? Il leur disait, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, hein, la vertu d'en haut, et ce serait équivalent à ce qu'il leur envoie ce que, je cite, mon Père a promis. Maintenant, ce même bref échange, ou du moins, cet extrait de son échange avec les disciples nous est également rapporté dans Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Je vous rassure que nous allons quelque part avec toutes ces choses-là. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de radoter. Dans Actes chapitre 1, versets 4 à 5, nous lisons. Verset 3 pour le contexte, auquel aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu, verset 4, et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, vous voyez, le même langage, mais d'y attendre la promesse du Père. Laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi, verset 5, c'est qu'en vérité, Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Et donc, Jésus ici était en train d'assimiler leur réception et leur baptême du Saint-Esprit à l'accomplissement de la promesse du Père. Gardez à l'esprit le langage ici, c'est important. Donc Jésus, je récapitule, Jésus commanda aux disciples de rester à Jérusalem et d'y attendre la promesse du Père, car, leur disait-il, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Et quelle est cette promesse du Père dont Jésus parlait ici? Voyons-le. Lisons ensemble les paroles de Actes chapitre 2, versets 1 à 4 tout d'abord. Voilà l'accomplissement de ces paroles de Jésus qu'il leur exprimait à la fois dans Luc 24 et ici dans ces paroles de Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, pardon, et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Donc ils reçurent le Saint-Esprit, et celui-ci leur apparut, je cite, comme des langues séparées, comme de feu, et se posèrent sur chacun, qui se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent également à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Donc nous voyons ici, frères et sœurs, que après avoir reçu le Saint-Esprit et s'être mis à parler en langues étrangères, certains se sont mis à réagir à cet événement de cette manière, comme c'est écrit au verset 13. Donc je passe tous les détails de cet événement où ils se mirent à parler en langues étrangères et où d'autres les entendaient parler dans leur propre langue, comme c'est marqué au verset 8 et également au verset 11. Et donc ils étaient tous étonnés, verset 12, et ne savaient que penser, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Ils assistaient à l'effusion du Saint-Esprit dans les disciples. Ou je devrais dire sur les disciples. Et verset 13, « Et d'autres, se moquant, disaient, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. » Donc ils disaient, ils sont ivres, quoi, ils sont bourrés les gens. C'est pour ça que c'est ça la raison. Mais, verset 14, « Pierre, se présentant avec les onze, éleva sa voix et leur dit, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont point ivres comme vous supposez, puisque c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Deux points. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Il est en train de citer le passage de Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Verset 17, « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel. » Et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée, le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. Et il arrivera, verset 21, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre est ici en train de déclarer? Il est évident, frères et sœurs, que l'apôtre Pierre comprenait cette promesse du Saint-Esprit comme s'appliquant jusqu'à la fin des temps par ses paroles d'Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Mais tout d'abord, avant d'y aller, j'aimerais attirer votre attention vers quelques détails ici. C'est-à-dire que, quelle était cette promesse du Père? Précisément, cette déclaration à laquelle l'apôtre Pierre faisait allusion, qui se trouve dans Joël chapitre 2, versets 28 à 32, qu'il a d'ailleurs cité dans sa totalité. Et qui, selon la déclaration de l'apôtre Pierre, lui-même inspiré du Saint-Esprit, et que l'on retrouve dans les Saintes Écritures, qui était en réalité, qui a trouvé son accomplissement dans l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais pas que, car nous lisons que cette effusion, c'est-à-dire lorsqu'il le dit au verset 18, « Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront », cette même effusion trouve son application jusqu'à la fin du temps parce que vous regardez que cela prend en compte et cela inclut les événements qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus. Comme c'est marqué au verset 20, à partir du verset 19 et 20, je devrais dire, « Et je ferai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes en bas, sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée, le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne. » Et verset 21, qui n'est non pas sans importance, « Il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais vous voyez ici qu'il y a un lien tout à fait étroit entre les paroles du verset 18 et celle du verset 21, parce que vraisemblablement, cette déclaration que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé est directement liée au fait que Dieu répandrait son esprit sur ses serviteurs et ses servantes et que ceux-ci prophétiseraient. Hein? Et que c'est à la suite d'une telle activité de prophétisation que les personnes invoqueraient le nom du Seigneur, comme il l'avait fait jadis lorsque le peuple de Dieu avait parmi eux des prophètes. Hein? Comme par exemple, un exemple typique, lorsque Élie était prophète, il appela le peuple de Dieu à la repentance et le peuple de Dieu invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, donc c'est étroitement lié. Et j'aimerais attirer votre attention, comme j'allais le faire, je me suis juste interrompu pour vraiment faire revenir en arrière, pour bien saisir cela. Vous voyez tout d'abord que cette activité des serviteurs et des servantes qui recevraient l'effusion du Saint-Esprit et qui prophétiseraient serait destinée à trouver une application et un accomplissement jusque dans la dernière période du temps et de l'histoire de la terre, car nous lisons au sujet du soleil qui serait changé en ténèbres. Et ce jour est très bien documenté dans l'histoire, à savoir il s'agit, et vous pouvez le lire dans des sources historiques, hein, on n'a pas besoin d'être les écrits d'Ellen White, ce jour est totalement documenté, à savoir comme le jour obscur ou aussi connu par le nom de jour sombre du 19 mai 1780. Un jour amplement documenté. Et ainsi que, bien entendu, les prodiges en haut dans le ciel, cette fameuse pluie d'étoiles ou de météorites, je ne sais plus exactement comment on dit cela, qui a eu lieu en 1833 aux États-Unis. Donc toutes ces choses faisaient partie de ces événements qui définirait juste la période de l'application du don prophétique dans l'église évangélique. Vous voyez un peu? Et comme j'allais le dire, vous voyez que l'apôtre Pierre comprenait bien cette promesse du Saint-Esprit comme s'appliquant jusqu'à la fin du temps, comme on peut le voir dans les paroles de Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Donc après que Pierre ait continué de parler, il a continué de parler de la résurrection de Jésus au verset 32, donc, dont ils ont été témoins, etc. Et nous lisons au verset 37 que, ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et qu'a répondu Pierre? Verset 38, et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Quoi? Est-ce qu'il a dit jusqu'à une telle date? Peut-être jusque dans 3 siècles après c'est terminé. Autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et vous pouvez mettre cette phrase ou ce passage en parallèle avec le verset 21 où il était écrit que, en lien avec cette prophétie, de l'effusion du Saint-Esprit sur les serviteurs et les servantes, sur les fils et les filles, les jeunes gens et les vieillards, verset 21, il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'apôtre Pierre disait, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Voyez? C'est-à-dire que la promesse de recevoir le Saint-Esprit, hein, vous voyez, c'est pas juste la promesse de la rémission des péchés, c'est la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit, quelle que soit sa manifestation, comme on va le voir plus tard. Quelle que soit sa manifestation, hein, à l'un il donne le don de prophétie, à l'autre le don de guérison, à l'autre le don d'administration, à l'autre ceci, à l'autre cela. Mais cette promesse-là, il dit, la promesse a été faite. Quelle promesse? La promesse de se voir remettre et pardonner nos péchés, mais la promesse également de recevoir le don du Saint-Esprit. Et pas juste les parties avec lesquelles vous êtes d'accord, toutes les parties, toutes les manifestations. Et il disait, la promesse a été faite à vous et à vos enfants. Oui, il dit. La promesse est faite à vous, à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, et autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Donc autant, tant qu'il y a des hommes, parce que Dieu appelle tous les hommes, hein. Rappelez-vous cette fameuse déclaration, à savoir beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, peu sont élus. Hein. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Et qui sont ceux qui sont élus, choisis? Ceux qui reçoivent Dieu. Ceux qui reçoivent, qui répondent à l'appel. Donc, combien est-ce que Dieu appellera? Tous. Dieu appelle tout le monde. Dieu ne fait pas exception de personne. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Tant qu'il y aura des personnes ouvertes à Dieu et à sa promesse, ce seront potentiellement des personnes qui pourront recevoir le don du Saint-Esprit. Vous voyez que je n'ai absolument pas ajouté à la parole de Dieu ici. Autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et donc, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera, ça veut dire aussi longtemps que le temps durera. N'est-ce pas? Parce que nous lisons que cette effusion du Saint-Esprit aurait lieu et continuerait potentiellement, hein, tant qu'il y aurait des personnes pour répondre à l'appel, hein, parce qu'il n'y a pas de limite dans l'appel de Dieu. Dieu, il appelle. Tant que le temps de grâce continue, Dieu appelle. La limite n'est pas dans l'appel de Dieu. La limite est dans la réception et la réponse à l'appel. Notez bien. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi sont-ils pas, pourquoi y en a-t-il peu d'élus? Pas parce que Dieu dit, oh, toi, je te choisis, toi, je ne te choisis pas. Non, les gens décident s'ils sont élus ou pas en affermissant leur vocation. Comme c'est marqué dans, je crois, 1 Pierre ou 2 Pierre. Et donc, cette promesse, hein, la promesse du Père, l'apôtre Pierre disait, la promesse a été faite à vous et à vos enfants, cette promesse s'appliquerait jusqu'à avant la grande et éclatante journée du Seigneur, que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne, comme c'est marqué au verset 20. Vous le voyez? Et donc maintenant, frères et sœurs, nous voulons, pour conclure juste cette méditation, nous n'avons pas du tout conclu le sujet, mais nous voulons, pour pouvoir maintenant avoir une manifestation concrète du don prophétique dans l'Église évangélique, nous tourner vers ces passages de Actes chapitre 11, verset 27. Parce que si nous sommes attentifs et si nous cherchons pour réellement obtenir une preuve à cet égard, eh bien nous voyons que le récit de l'Église primitive chrétienne nous montre en effet que le don de prophétie était très clairement à l'œuvre parmi les disciples de Christ. Lisez avec moi le passage de Actes chapitre 11, versets 27 à 30. Donc il s'agissait ici voyons voir. Il s'agissait sans doute de Pierre qui était avec Barnabas à Antioche. Voilà, et nous disons que ce fut à Antioche que pour la première fois, verset 26, que pour la première fois les disciples furent nommés chrétiens. Verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Antioche, je ne sais plus, excusez-moi, Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine par toute la terre, ce qui arriva en effet sous Claude César. Et les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon son pouvoir, un secours aux frères qui demeuraient en Judée, et ils le firent, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Oui, voilà, c'est ça, c'est Saul, et après, plus tard, il nous est rapporté comme Paul. Bref, c'est un détail. Donc vous voyez que du temps de Paul et Barnabas, il y avait déjà, ou on devrait dire peut-être encore, on va dire déjà, des prophètes au sein de l'Église évangélique chrétienne. Vous le voyez? Parce que nous disons des prophètes, pas un. Des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine. Et qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils se sont levés? Ils ont dit, bah, on n'est pas trop sûr là qu'il y a encore le don de prophétie dans l'Église, pas trop sûr. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon son pouvoir un secours aux frères qui demeuraient en Judée. Vous voyez? Donc, de toute évidence, il n'y avait pas un grand doute sur la question de est-ce qu'il était ou pas prophète. Vous voyez? Non, mais c'est assez intéressant parce que aujourd'hui ce langage n'est pas tenu, ou du moins il est peut-être, ces passages sont peut-être utilisés à tort, ou ils sont soit utilisés à tort, soit pas utilisés du tout et ignorés. Mais nous ne voulons ni les ignorer ni les déformer. Nous voulons les prendre tels que Dieu les a voulus. Et ici, le simple sens, c'est qu'il y avait des prophètes, dont cet homme Agabus, c'est que cet homme a prophétisé et qu'il disait absolument vrai, parce que selon cette parole, il annonça par l'esprit qu'il y aurait une famine par toute la terre, ce qui arriva en effet sous Claude César. Et ce n'est pas tout, parce que 19 ans plus tard, notez bien ici, 19 ans plus tard, nous retrouvons non seulement le même homme, mais nous voyons quelle confiance les disciples plaçaient, à juste titre, en ces paroles. Tournez-vous avec moi vers les paroles de Actes chapitre 21. Actes chapitre 21. Et à travers ces déclarations, nous obtenons une vision à la fois déconcertante d'une église qui ne nous a souvent pas été présentée ainsi, à savoir d'une église parmi lesquelles les dons de l'esprit étaient pleinement actifs. Et nous allons voir par la suite pourquoi ces dons ne demeurèrent pas par la suite aussi présents. Nous allons le voir, nous allons l'explorer, nous allons prendre un petit moment. Mais je le disais, donc 19 ans plus tard, après cet événement de Actes chapitre 11, verset 27, dans Actes chapitre 21, verset 10, nous lisons, le calcul, je vous laisse le faire, vous vérifiez, si vous... Moi, j'ai pris cette source du frère Loughborough, je ne doute absolument pas de son calcul. Si je devais le vérifier, je suis 100% sûr que je retrouverais précisément cette date. Donc, nous allons rester sur ce qu'il a dit, à savoir 19 ans plus tard, dans Actes chapitre 21, nous voyons ce même homme. Je lis Actes chapitre 21, verset 10. Comme nous demeurâmes là plusieurs jours, là, c'est-à-dire à Césarée, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et étant venu vers nous, il prit la ceinture de Paul et se liant les mains et les pieds, il dit, le Saint-Esprit dit ceci, les Juifs lieront de même à Jérusalem l'homme auquel appartient cette ceinture, ils le livreront entre les mains des gentils. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce qu'ils ont réagi? La réaction, souvent, enfin moi j'ai déjà lu ces choses, je n'ai pas du tout tilté. Comment est-ce qu'ils ont réagi à cela? Verset 12. Et quand nous eûmes entendu cela, nous et les habitants du lieu, nous priâmes Paul de ne point monter à Jérusalem. Et comment est-ce que Paul a répondu? Est-ce que Paul a dit... Bah, je suis pas trop sûr de lui, vraiment, là, il est un peu douteux, ce mec. Hein? Verset 13. Mais Paul répondit, que faites-vous en pleurant et me brisant le cœur? Car je suis prêt non seulement à être lié, mais même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Ainsi, n'ayant pu le persuader, nous nous tînmes tranquilles et nous dîmes que la volonté du Seigneur soit faite. Quoi? Que la bonne... Mais il y a juste un homme qui a dit. Oui, mais c'était un prophète. Et qui plus est, un prophète en qui ils avaient appris qu'ils pouvaient placer leur confiance, à savoir un prophète dont les paroles étaient dignes de foi. Un prophète, je répète, dont les paroles étaient dignes de foi, un prophète en qui ils avaient mis leur confiance parce qu'ils avaient manifesté qu'ils n'étaient pas parmi les hommes contre lesquels Jésus avait averti ses disciples, à savoir des faux prophètes. Hein? Et donc vous voyez ici que la prophétie d'Agabus fut reçue, je récapitule, elle fut reçue par tous pour argent comptant. Hein? Ils n'ont même pas mis en question la chose. Hein? Mais réfléchissez, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, nous, Qu'est-ce qui nous différencie d'eux en fait? Est-ce que la promesse a changé? Alors nous avons vu que la promesse n'a pas changé. Nous avons vu les paroles de l'apôtre Pierre en harmonie parfaite avec les paroles de Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Nous avons vu que la promesse s'étend jusqu'à avant la grande et terrible journée de l'Éternel. Et cette promesse est pour vous et vos enfants et tous ceux que le Seigneur, autant que le Seigneur appellera. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui nous différencie, nous, aujourd'hui, d'eux? Pas la promesse, parce que la promesse est la même, parce que la promesse s'applique à eux comme à nous, parce que la promesse va jusqu'à la fin du temps. Et donc, la différence est dans la disposition à être dirigé et être corrigé plutôt que l'extension de la promesse. La promesse, elle s'étend à eux comme à nous. Donc, la différence n'est pas dans la promesse. La différence est dans la disposition du cœur. Parce que si vous regardez ici, cette déclaration du prophète Agabus était aussi digne de foi pour eux qu'un rassemblement de plusieurs témoins oculaires. Remarquez ici, verset 13, frères et sœurs, remarquez. Qu'est-ce que Paul il a dit? Même pas, il n'y a même pas de. Il n'y a rien qui est dit au sujet de peut-être ils se sont dit, bon, on va examiner si c'est vraiment valable son truc là. Rien, mes frères et sœurs. Paul, il a dit, pourquoi vous me pleurez en me brisant le cœur? En gros, il disait, il n'a même pas mis en question le fait, est-ce que c'était correct, valable, digne de foi? Même pas, rien du tout. Nous voyons d'ailleurs au même endroit à Césarée que Philippe, je poursuis. Nous voyons d'ailleurs au même endroit à Césarée que Philippe l'évangéliste, l'un des sept diacres, avait, comme c'est marqué au verset 9, quatre filles vierges qui prophétisaient. Donc, dans Actes chapitre 11, verset 27, nous avons lu qu'il y avait plusieurs prophètes qui étaient descendus de Judée, dont Agabus. Et dans Actes 21, nous lisons au sujet du prophète Agabus qui descendit de Judée, et que dans cette même ville de Césarée, Philippe, l'évangéliste, avait quatre filles vierges qui elles-mêmes prophétisaient. Donc elles-mêmes étaient des prophètes. Enfin, je veux dire, c'est synonyme. Donc, maintenant nous voulons voir quelle place le don prophétique a dans l'Église évangélique. Parce que la première question, c'est le don prophétique a-t-il encore sa place dans l'Église évangélique? Nous venons de voir qu'il a eu une place et conformément avec la promesse du Père, de Joël, chapitre 2, qu'il aura une place jusqu'au temps, juste avant le retour de Jésus. Je n'y reviens pas. Mais nous voulons savoir quelle place le don prophétique a dans l'Église. Quelle place? Et pour cela, j'aimerais que nous nous tournions vers les paroles d'Éphésiens. Les paroles d'Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets tout d'abord 7 à 8 et ensuite 11 à 16. Quelle était, frères et sœurs, la raison qui nous a été donnée pour la distribution des dons de l'Esprit, parmi lesquels, bien sûr, nous avons le don de prophétie. Un don de prophétie, don prophétique, c'est la même chose. Quelle est la raison que Dieu a donnée pour cette distribution des dons de l'Esprit? Parce que la promesse du Saint-Esprit comprend toutes les autres manifestations, je devrais dire. Parce que si vous vous tournez, avant de lire ce passage d'Éphésiens chapitre 4, j'aimerais que nous nous tournions brièvement vers les paroles de 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que c'est quand même important d'avoir cela également en tête. Lorsque nous lisons ensuite le passage d'Éphésiens 4, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, nous lisons tout d'abord, pour ce qui est des dons spirituels, hein, les dons de l'esprit, les dons spirituels, vous voyez, c'est le langage similaire. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je saute au verset 4. Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Ah, dons spirituels, diversité de dons, toutefois, c'est le même esprit. Donc vous voyez, la diversité de dons, elle vient conformément à la même promesse du Père, hein, que Jésus l'avait mentionné dans Luc chapitre 24 et que nous voyons également mentionné dans Actes chapitre 1, verset 4, la promesse du Père, et à laquelle l'apôtre Pierre a fait qu'il a mentionné dans cet autre passage que nous lisions, je crois que c'est Actes chapitre 2. Donc, diversité de dons, mais un même esprit, et qu'il avait également mentionné dans, c'est important, Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38, c'était de recevoir le Saint-Esprit, la promesse de recevoir le Saint-Esprit, de se voir remettre les péchés, de la rémission des péchés et de l'effusion de l'Esprit. La même promesse comprend cela. Et donc, il y a diversité de dons, mais un même esprit, verset 5, il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la manifestation? Eh bien, c'est la diversité des dons. C'est-à-dire que l'esprit se manifeste de différentes manières. Vous voyez? Hein, c'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Parce que, puisqu'il y a divers dons, cela veut dire que ce même esprit se manifeste de diverses manières, n'est-ce pas? Comme on le lisait d'ailleurs dans Hébreux chapitre 1, il nous a parlé à plusieurs reprises de diverses manières par ses prophètes. Je poursuis. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit, la parole de science ou connaissance est donnée à l'autre par ce même esprit. Un autre reçoit la foi par ce même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de guérir, un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, hein, pas des shabbalas, mais la diversité des langues étrangères, la connaissance d'autres langues, que ce soit de manière surnaturelle ou par éducation. Oui, ce n'est pas juste de l'éducation. Si vous arrivez à apprendre d'autres langues, c'est également un don. Hein, des choses, même si vous y travaillez, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un don. Et donc, la diversité des langues et un autre, le don d'interpréter les langues, et vous pourriez même ajouter le don de la musique, le don du secrétariat, le don de la trésorerie, tout ce que vous voulez, enfin du moins des choses que l'on voit pour lesquelles les gens peuvent avoir un don. Verset 11, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Verset 12, car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en aime de même de Christ. Verset 14, car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs, etc. Et donc, intéressant, parce qu'ici, il est en train d'assimiler la diversité des dons à la totalité du corps. Et choisir doter à la manifestation des dons de l'esprit un parmi tant d'autres, dire voilà, ça c'est pas possible, désolé, aujourd'hui on ne fait plus ça, c'est terminé, Dieu il fait plus ça. C'est comme amputer le corps. Hein, c'est le langage que le frère John Loughborough il utilise. Il dit de même que les dons de l'esprit sont représentés comme un corps, vouloir ôter certains des dons de cette promesse générale de l'effusion du Saint-Esprit, c'est comme amputer le corps. Voyez? Donc, de toute évidence, la promesse de l'Esprit qui est valable jusqu'à la fin du temps, jusqu'à le jour ardent de la colère de Dieu, jusqu'à ce que ce jour de son éclatante ardeur vienne, comprend toutes les manifestations de cet esprit, comprend la diversité des dons et ne peut être amputé de quelconque de ces dons, de quelconque de ces manifestations. Et maintenant, nous pouvons maintenant, nous, à juste titre, nous tourner vers les paroles de Éphésiens chapitre 4 et je vais essayer de boucler sous peu. Éphésiens chapitre 4, versets 7 et 8 tout d'abord. Et ensuite, nous passons au verset 11. Et normalement, nous lisons généralement à partir du verset 8, mais regardez, à la lumière de ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, lisez maintenant et comprenez le sens du verset 7. À savoir que souvent, le mot grâce est interchangeable avec le mot esprit. À la grâce de Dieu, l'esprit de Dieu. Vous avez probablement vu cela à de nombreuses reprises. Et regardez verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, hein, Jésus, il a emmené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Hein, les dons. Verset 11, nous poursuivons. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ou je devrais dire, comme c'est marqué dans la note de marge en anglais, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'unité de la foi pour commencer et de cette connaissance du Fils de Dieu, c'est bon, laissez tomber, ça n'arrivera jamais. Vous n'allez jamais parvenir à l'état d'un homme fait et à la stature parfaite de Christ. Donc le réel sens de ce passage biblique, s'il avait été correctement traduit dans toutes les versions, ce serait tous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, virgule, dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, virgule, à l'état d'un homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'objectif, ce n'est pas de parvenir à l'unité de la foi à la ligne d'arrivée. Terminer cette logique. C'est en étant dans l'unité de la foi de parvenir à la ligne d'arrivée qui est à la stature parfaite de Christ. Il hein? ne faut pas confondre cela. Et donc, les dons sont distribués selon la mesure du don de Christ, qui a, je cite, distribué des dons aux hommes, hein? Celui d'établir des apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs, afin d'accomplir, verset 12, le perfectionnement des saints. L'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, verset 14, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans l'amour, dans la charité, l'amour. Et donc, tout ça pour dire que le don prophétique dans l'Église a pour objectif d'accomplir le perfectionnement des saints. Et c'est pour cela que Dieu, du moins, Jésus, a distribué des dons aux hommes. Le don du Saint-Esprit est dans ce don-là, diverses manifestations, diversité des dons, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'utiliser le langage biblique et la manière dont la Bible s'explique elle-même. Et donc, pour récapituler, nous voyons qu'il les a établis, c'est-à-dire leur a distribué leurs dons respectifs pour le perfectionnement des saints, etc., je l'ai dit. Et remarquez que il existe encore aujourd'hui ce besoin pour l'accomplissement d'une telle œuvre. C'est-à-dire que ces choses qui sont marquées au verset 12 ont toujours besoin de trouver un accomplissement. Si ce n'est dans les personnes qui sont mortes, au moins dans celles qui sont vivantes, à savoir nous aujourd'hui qui professons le nom de Jésus-Christ et la foi adventiste et la foi dans le message du troisième ange et qui aspirons à parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si tel est notre espoir, et en effet ce devrait l'être, car c'est ainsi que la parole de Dieu nous enseigne, eh bien nous ne pouvons nous passer du don de prophétie, du don prophétique. Et donc telle est la place qu'occupe le don prophétique dans l'Église évangélique, à savoir une place irremplaçable, dont on ne peut se passer. Le don prophétique joue dans l'Église évangélique, c'est-à-dire l'Église depuis Jésus jusqu'à la fin du temps, un rôle crucial, celui de pourvoir à ce que nous puissions parvenir à la perfection. Parce que la stature parfaite de Christ, c'est le perfectionnement des saints. Vous voyez que c'est synonyme en réalité. Sauf qu'ici, il est question du perfectionnement du corps entier. Et le don de prophétie est indispensable pour parvenir à cet objectif de l'Évangile. Notez bien, c'est l'objectif de l'Évangile, que nous puissions être rendus semblables à Jésus. Et ici, pour faire le pont maintenant entre cette étude que nous allons conclure avec Dieu aidant la prochaine, j'aimerais notamment, en particulier, attirer votre attention vers le fait que, quoique ce soit en effet ici l'enseignement de la parole de Dieu au sujet de la place qu'occupe le don prophétique dans l'Église chrétienne, eh bien, nous trouvons dans l'histoire, malgré cela, un grand abîme dans la manifestation de ces dons de l'esprit, tout particulièrement dès le début, juste avant et dès le début de l'Empire romain catholique. Et cela, j'aimerais juste pour abréger la chose, parce que sinon ça demanderait trop d'explications de ma part, parce que je n'ai plus le temps de le faire. Je vais toutefois vous lire cette expression assez concise du frère Loughborough qui se trouve dans son livre The Prophetic Gift in the Gospel Church à la page 21, et je vais conclure sur ces quelques paragraphes. Il dit, en lien avec toutes ces choses que nous voulons de tracer ici à travers notre étude de la parole de Dieu, et ensuite ce gigantesque abîme, c'est-à-dire que jusqu'à un certain temps, nous voyons dans l'histoire des récits de la présence, de la manifestation du Saint-Esprit, mais ensuite il y a un gigantesque vide dans l'histoire de l'Église, et ce vide est dû à nulle autre raison qu'à la montée en puissance de l'Église papale. Et voilà comment il l'explique en ces quelques mots. Il dit « Nous constatons dans les Écritures que la manifestation du don de prophétie est étroitement liée à l'obéissance à la loi de Dieu. Lorsque le peuple suivait fidèlement le Seigneur, celui-ci le favorisait en lui donnant des instructions par l'intermédiaire de ses prophètes. Lorsqu'ils tombèrent dans le péché et qu'ils s'éloignèrent de sa loi, ils ne reçurent plus de vision de la part de Dieu, comme nous l'avons déjà montré. C'est donc tout à fait vrai, comme l'exprime Salomon, que lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple périt ou est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. Proverbe 29, verset 18. Ils sont heureux, dit-il, car lorsqu'ils obéissent à la loi du Seigneur, celui-ci se plaît à les instruire par l'intermédiaire des prophètes. Pourquoi est-il écrit que heureux est celui qui garde la loi? Parce que, il vient de faire le lien, celui qui garde la loi se voit béni par Dieu en ce qu'il se plaît ainsi à les instruire par l'intermédiaire de ses prophètes. Voyez le lien absolument étroit entre la fidélité du peuple de Dieu à sa loi et la fidélité de Dieu à sa propre promesse de leur donner le don du Saint-Esprit, et notamment la manifestation de ce don dans le don de prophétie. Donc, lorsque nous lisions ici que lorsque le peuple suivait fidèlement le Seigneur, celui-ci, c'est-à-dire le Seigneur, les favoriser en leur donnant des instructions par l'intermédiaire de ses prophètes. Lorsqu'ils étaient fidèles, Dieu les éclairait, les instruisait par ses prophètes, mais lorsqu'ils tombèrent dans le péché et qu'ils s'éloignèrent de sa loi, alors ils ne reçurent plus de vision de la part de Dieu. Et si nous continuons, parce que ça s'applique maintenant, ça s'applique à n'importe quel moment, mais ça s'est tout particulièrement appliqué lors de la montée en puissance de l'Église papale, et ça, ce même problème existe et s'applique à tous les autres corps religieux qui suivent la même trajectoire de désobéissance à la loi de Dieu. À savoir, quelle est la conséquence? Celle de ne plus recevoir de vision. Pourquoi? Parce que heureux est celui qui garde la loi. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui gardent la loi se verront privilégiés du don, de la manifestation du don de prophétie. Et il continue ici à la page 22. C'est un fait avéré que lorsque l'Église primitive conservait sa pureté, le Seigneur manifestait parmi elle les dons de son esprit. Mais à mesure que l'apostasie gagna du terrain, leur condition devint de plus en plus semblable à celle de l'ancien Israël, dont Dieu avait dit « Ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. » Ensuite, il dit « Néander, dans son histoire de l'Église, parle ainsi des montanistes du IIe siècle. » C'est un groupe de chrétiens, les montanistes. Il dit « Les montanistes considéraient expressément comme une caractéristique de cette dernière époque du développement du royaume de Dieu, le fait que, selon les prophéties de Joël alors en cours d'accomplissement, les dons de l'Esprit devaient être indifféremment répandus sur toutes les classes de chrétiens des deux sexes. Il semble également que la doctrine des montanistes ait été que la saison de la dernière et la plus riche effusion du Saint-Esprit constituerait le dernier âge de l'Église et précéderait la seconde venue de Christ et serait l'accomplissement de la prophétie de Joël. » Donc les montanistes, c'est-à-dire ces chrétiens-là, qui portaient leur nom je crois que c'est Montaigne, qui était connu comme un prophète, croyait en toutes ces choses que nous venons de voir ici dans la parole de Dieu. C'est-à-dire à savoir la prophétie de Joël et le don du Saint-Esprit comme s'appliquant à ces derniers temps durant lesquels Dieu nous a parlé par son Fils à travers l'Esprit. Et je termine. John Wesley, en parlant des montanistes, dit, de point, en réfléchissant à un livre étrange que j'ai lu au cours de ce voyage, j'ai été pleinement convaincu de ce que je soupçonnais depuis longtemps, à savoir que les montanistes, au cours des deuxième et troisième siècles, étaient de véritables chrétiens bibliques et que la grande raison pour laquelle les dons miraculeux ont été si rapidement retirés n'était pas seulement que la foi et la sainteté s'étaient presque totalement perdues, mais que des hommes froids, formels et orthodoxes commençaient déjà à ridiculiser tous les dons qu'ils n'avaient pas eux-mêmes et à les décrier tous comme étant soit de la folie, soit des impostures. Qu'est-ce que disait Wesley ici très rapidement, après je vais conclure. Il disait, il a conclu en lisant ce livre que la grande raison pour laquelle les dons miraculeux furent si rapidement retirés de l'Église, c'est-à-dire qu'ils ne recevaient plus les manifestations de l'Esprit comme par le passé, c'était pas juste que la foi et la sainteté s'étaient pratiquement totalement perdues du cœur des hommes, mais c'est parce que des hommes froids, formels et orthodoxes commençaient désormais à ridiculiser tous les dons de l'Esprit et à les décrier, c'est-à-dire à les dénoncer comme s'ils n'étaient que des manifestations de folie ou des impostures. Vous voyez? N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Même parmi les adventistes, frères et sœurs. Je poursuis, je termine. Quand on lui posait la question à John Wesley, à savoir, si vous admettez les miracles avant que l'Empire ne devienne chrétien, pourquoi ne les admettez-vous pas après? Monsieur Wesley répondait. Quand on lui posait cette question, il répondait ceci. Parce qu'après la christianisation de l'Empire romain, une corruption générale de la foi et des mœurs a infecté l'Église chrétienne qui, par cette transformation, comme le dit saint Jérôme, a perdu autant de sa vertu qu'elle avait gagné de richesse et de puissance. Vous voyez? Quelle est la raison pour laquelle il y eut cette disparition pratiquement totale des dons miraculeux de l'esprit, hein, dont le don prophétique fait partie? C'était, au sens de John Wesley, en raison de la christianisation de l'Empire romain et de la corruption générale de la foi et des mœurs qui a infecté l'Église chrétienne par la suite. C'est cela qui est la raison de la disparition des dons de l'Esprit au sein de l'Église sur la terre, à cause de cette perversion de l'Église chrétienne à travers tout particulièrement le Moyen Âge et la suprématie de la papauté. Et cette même absence des dons est manifeste aujourd'hui et se voit aujourd'hui parmi toutes les églises qui ont hérité des dogmes et qui ont préservé les croyances caractéristiques de l'église papale qui empêchent les personnes et les gens et le peuple à démontrer leur fidélité à Dieu par leur obéissance à sa loi. Sur ce, frères et sœurs, c'était un peu long, mais je suis heureux d'avoir pu vous partager ces choses-là. Et Dieu aidant, par la grâce de Dieu, j'aimerais faire une troisième partie dans laquelle nous pourrons nous attarder sur la manifestation concrète du don prophétique dans l'Église chrétienne en ces tout derniers jours. Donc, non pas simplement les derniers temps, mais la fin de la fin. Et arriver à comprendre et à solidifier ou à créer dans nos cœurs une conviction solide vis-à-vis de la manifestation du don de prophétie parmi nous, afin que Dieu puisse accomplir ce perfectionnement des saints. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne fin de sabbat ou un bon sabbat pour ceux qui le commencent aujourd'hui. Je pense tout particulièrement à nos frères en Polynésie. Que Dieu vous bénisse tous et puisse Dieu vraiment nous accompagner dans cette prise de conscience de l'accomplissement de la promesse du Père. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.